Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour les conférences du Carême protestant. Durant toute la période du Carême, nous vous proposons une série de conférences sur les fondamentaux du protestantisme autour de cette idée forte de Luther, Coram Deo, vivre devant Dieu. Cette année, nous serons en compagnie de Jean-François Brenne, pasteur de l'Église protestante Unie de France à l'Église luthérienne Saint-Jean à Paris. Pasteur Jean-François Brenne, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous intitulez cette deuxième conférence « Le Christ, visage de Dieu, un Dieu qui se fait proche ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
De Dieu, nous ne savons pas grand-chose. Mais pour nous, chrétiens, voilà que dans l'homme de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans, il y a un peu plus qu'un prophète, il y a un peu plus que quelqu'un qui nous dirait des choses de la part de Dieu, mais il y a quelque chose de Dieu lui-même qui se donne à voir et à rencontrer. Et c'est autour de cette question-là que je propose que nous nous arrêtions.
Pasteur Jean-François Brenne, je vous laisse maintenant la parole pour ce temps de conférence.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Nous nous sommes demandé la dernière fois avec ces premiers versets du psaume 67 qui nous accompagnent, de quel Dieu il s'agissait. Et une première conclusion s'imposa, le Dieu dont il est question est le Dieu de la bénédiction, du passage et de la réconciliation. Et le psaume de poursuivre, que son visage s'illumine pour nous. Relevons chemin faisant qu'en hébreu le mot visage se dit panim, et que panim est une forme plurielle, comme pour suggérer que nous ne montrons toujours qu'un aspect de ce que nous sommes, et que personne ne se réduit jamais à l'image qu'il donne de lui-même. Mais Dieu aurait-il un visage ? L'huile au-delà de tout ? Le tout autre par excellence, dont tout ce que nous pouvons dire, penser, imaginer ne peut être au mieux que spéculation vaine et au pire, projection de nos fantasmes ou de nos frustrations? Non, de Dieu en tant qu'il est Dieu, de fait, nous ne pouvons rien dire. Il est même dangereux de tenter d'en dire quelque chose, au risque de forger de nouvelles idoles, car qu'est-ce que l'idole, sinon l'image que je fabrique et projette moi-même sur ce que j'appelle Dieu? Pour un juif ou un chrétien, nous ne pouvons parler de Dieu qu'à partir de ce qu'il dit de lui-même au travers les mots de la Bible. Ou pour le dire autrement, qu'au travers les mots de ceux qui nous relatent une expérience qu'ils ont faite du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Point de spéculation métaphysique donc sur la nature de Dieu, mais une rencontre avec ce qu'a fait et ce que continue de faire le Dieu qui se donne à rencontrer dans les pages du vieux livre. Mais pour le chrétien, la focale se resserre encore, car effectivement, Dieu a bien pour nous un visage, ou plus précisément encore, Dieu a pris pour nous visage, visage humain, et c'est celui que nous découvrons en regardant au Jésus des Évangiles. Davantage même, pour les réformateurs et plus singulièrement pour Martin Luther, il s'agit de ne connaître Dieu qu'en regardant au Christ et au Christ crucifié. Selon le théologien catholique Adolphe Guéché, le geste original du réformateur réside dans le fait qu'il est résolu d'apprendre la nature de Dieu, ce qu'est Dieu, uniquement à partir de Jésus-Christ. Il faut souligner le « uniquement ». Le réformateur va en effet distinguer ce qu'il appelle le Dieu nu, le Deus nudus, le Dieu en tant qu'il est Dieu, et dont nous ne pouvons ni ne devons rien dire, car en vérité, nous ne savons rien de lui, du Dieu en tant qu'il se donne à rencontrer en Jésus-Christ. Et là, parce qu'il se révèle justement dans un visage humain, alors de lui, nous pouvons parler. Écoutons Martin Luther, le réformateur de Wittenberg. Que personne, en ses pensées, ne s'approche donc de la divinité nue. Qu'il évite ses pensées comme on le ferait de l'enfer. Mais ayons soin de rester attachés aux symboles par lesquels Dieu s'est révélé lui-même à nous. À son Fils, né de la Vierge Marie et couché dans la crèche. À la parole, à la scène, à l'absolution. Car c'est dans ces images que nous voyons et que nous trouvons le Dieu dont nous pouvons soutenir la présence. Voilà la seule vision de Dieu dans cette vie. Elle est facile et possible. Il faut aller au Père par le chemin Jésus-Christ. Fin de citation. Il faut aller au Père par le chemin qui est le Christ. Il y a, nous venons de l'entendre, une posture tout à fait catégorique et exclusive, le refus de spéculer sur Dieu, sa nature et ses attributs, pour s'en tenir au Christ seul. Il faut aller au Père, précise Luther, car c'est bien Jésus qui nous révèle Dieu comme Père. Ici, une précision s'impose, au risque de la caricature. Il n'est pas exact de dire, comme nous l'avons fait trop souvent par le passé, que l'affirmation de Dieu comme Père serait une invention du christianisme. Dans la Bible hébraïque déjà, apparaît l'image de Dieu comme Père. Ainsi, le psaume 89 met l'expression dans la bouche de Dieu lui-même, parlant de David, « Lui m'appellera mon Père, mon Dieu, le rocher qui me sauve. » Mais on trouve également une occurrence au livre du Deutéronome. « Dieu n'est-il pas ton Père, ton Créateur ?» Et quelques-unes encore chez les prophètes, notamment trois fois chez Ésaïe. Mais force est de constater qu'elle apparaît pourtant très rarement. Dans la piété juive aussi, on connaît l'idée d'un Dieu Père, et on l'invoque parfois en ces termes. Dans le Shemoneh Esrei, la prière des 18 bénédictions, texte datant d'avant la destruction du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, texte donc contemporain de Jésus, nous trouvons dans la 5e prière « Fais-nous revenir notre Père à ta Torah » et dans la 6e « Pardonne-nous notre Père car nous avons péché ». Relevons l'expression « notre Père » qui sera reprise de façon cette fois paradigmatique dans le Nouveau Testament. Mais incontestablement, même si elle n'invente donc pas l'expression, la tradition néo-testamentaire va effectuer une concentration radicale et quasi exclusive autour de la figure du Dieu Père. Et cette concentration se retrouve plus particulièrement encore dans l'Évangile selon Jean, alors même que le texte de la prière du Notre Père ne s'y trouve pas. Jean va pourtant employer à l'envi ce vocable dans le contexte d'une relation personnelle entre Jésus et son Père qui est notre Père, de sorte que la compréhension que Jean va nous donner du Christ est celle qui insiste le plus sur la révélation du Dieu Père, faisant de Jésus l'envoyé du Père, celui qui nous révèle le visage du Dieu Père. Mais la question rebondit, qui est ce Jésus, l'homme de Nazareth? Il ne s'agit pas de nous lancer ici dans une enquête sur le Jésus historique, mais bien davantage de nous interroger sur qui est Jésus pour l'évangéliste Jean, et puis qui est-il pour moi, pour nous, aujourd'hui. On s'en souvient, chez Jean, pas de récit de la nativité. Mais tout commence par une hymne à la parole, au verbe, comme le donne la traduction écuménique de la Bible, la Tobe. Je lis. « Au commencement était le verbe, et le verbe était tourné vers Dieu, et le verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. » Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir d'homme, ni d'un vouloir de chair, mais ceux-là sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Le mot qui résonne ici à l'envi, et que la Tobe traduit par le verbe, est en grec le mot « logos », qui lui-même traduit en fait un mot clé de la pensée hébraïque, le mot « davar ». Et le mot « davar » n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole en tant qu'elle produit quelque chose, c'est la parole créatrice par excellence. Là où Dalida chantait dans mon enfance « parole, parole, parole », sous-entendant que tout cela n'est que du vent, le davar hébraïque, lui, exprime exactement le contraire. C'est la parole en tant qu'elle est créatrice et agissante, qu'elle réalise ce qu'elle dit et qu'elle effectue ce qu'elle exprime. On parle aujourd'hui dans les mondes de la linguistique et de la philosophie d'énoncé performatif. Car en effet, il y a parole et parole. Prenons un exemple. Si je dis « il va faire beau demain » ou « demain nous prendrons le train », ce n'est pas une parole performatrice, car peut-être il pleuvra ou il y aura une grève qui m'empêchera de prendre le train. C'est une parole au sens où Dalida les chantait. Si je dis « mon épouse avait préparé pour le repas du soir du 24 décembre les 13 desserts provençaux », il s'agit déjà d'une autre parole. C'est une parole informative, une parole descriptive, qui dit et informe sur ce qui est ou sur ce qui fut, mais qui ne change pas fondamentalement quelque chose dans la vie de celui qui l'écoute. Mais si, lors d'un rendez-vous avec celle qui, décidément, me plaît de plus en plus et dont je suis en train de tomber amoureux, si donc, lors de ce rendez-vous, celle-ci me murmure « je t'aime », alors rien n'est plus désormais comme avant. Pourtant, rien n'a encore changé. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. Tout est neuf, éblouissant de lumière, je suis aimé par celle que j'aime. Cette parole est véritablement performatrice. C'est une parole qui crée du neuf et qui change tout, n'en déplaise à Dalida. Et cette parole peut nourrir une vie entière. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit, avec le logos grec, qui traduit le davar hébraïque. Le verbe dont il est question dans le prologue de Jean que nous venons d'attendre. Une parole qui change tout, qui illumine tout. Et c'est cette parole-là, cette puissance créatrice de Dieu, qui déjà dans le premier chapitre de la Genèse ordonnait le monde et le faisait sortir du chaos, c'est cette parole-là qui vient planter sa tente parmi nous, comme le dit littéralement l'hymne johannique. Et voilà que le texte identifie Jésus, l'homme de Nazareth, avec cette parole créatrice. De sorte qu'il n'est plus seulement un prophète parmi d'autres, mais en lui se donne à rencontrer la puissance créatrice de la parole de Dieu. Et cette parole fait de ceux qui l'écoutent et la reçoivent des enfants de Dieu dans un éblouissement de lumière. Comment se réalise cette œuvre de Dieu? Par la parole créatrice qui vient planter sa tente parmi nous. Davantage même, par le Verbe qui se fait chair, dit encore le prologue de Jean. Arrêtons-nous un instant sur cette surprenante affirmation. Je ne veux pas ici spéculer sur les notions des deux natures du Christ, chères aux théologiens de tous les temps, mais plutôt discerner un des enjeux de ce que les églises chrétiennes appelleront l'incarnation, à savoir Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ. Il s'agit en effet de découvrir et de pouvoir désormais rencontrer Dieu, non pas dans la puissance, la magnificence, la force ou la sagesse éternelle, mais bien dans le faible, le petit, le fragile, et cela aura de notre humanité. Il t'est impossible de reconnaître Dieu sans dommage, ni par ton imagination, ni par tes spéculations, sinon en te tenant à sa crèche, dit admirablement Martin Luther. Et de poursuivre, mon cher, n'escalade pas le ciel, va d'abord à Bethléem. Dont acte. Mais d'une façon très surprenante, il s'agit bien ici aussi d'une réhabilitation de la chair. N'en déplaise à tous ceux qui dénoncent je ne sais quelle pseudo-morale judéo-chrétienne comme étant une ennemie de la chair et du corps. Si dans l'histoire de l'Église, il est indéniable que ce fut souvent le cas, cela ne vient pas des textes bibliques, mais davantage de l'héritage culturel de l'Antiquité, qui fut malheureusement le cadre de référence philosophique au sein desquels se pensa la théologie chrétienne primitive. Mais pour les Évangiles, la chair est justement le lieu même de la présence de Dieu en Jésus, ce qui rend la rencontre possible avec lui. N'oublions pas la phrase de Luther, « Mon cher, n'escalade pas le ciel, va d'abord à Bethléem. » Pourtant, dans le récit que fait saint Jean, pas de crèche, je l'ai dit. Regardons alors au premier pas de Jésus dans cet évangile. Nous sommes au lendemain de son baptême par Jean le Baptiste, le précurseur, juste après que celui-ci se soit écrié, voyant Jésus qui marchait, « Voici l'agneau de Dieu ». Alors qu'il avait dit quelques versets auparavant au moment de son baptême, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus se retourna, précise le texte, et dit aux disciples du Baptiste, « Que cherchez-vous ? » Voici l'agneau de Dieu. L'expression a fait florès. Et grande alors est la tentation de comprendre l'expression « et le Christ » seulement sous l'angle de la métaphore de l'agneau pascal, celui de l'agneau immolé de la Pâque juive, la veille de la sortie d'Égypte. Mais ici un piège nous guette. En grec, plusieurs mots existent que l'on peut traduire par « agneau » et Jean fait très attention de ne pas employer le mot usuel « arnion ». Il lui préfère un autre mot, « amnos », que nous trouvons seulement pour désigner le Christ sous la plume de Jean. Ce mot, nous le retrouvons aussi dans les Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, réalisée au IIIe siècle avant notre ère, employée au livre du prophète Ésaïe. Il s'agit de l'un des passages dits du serviteur souffrant. Écoutons. « Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. » L'accent est mis ici sur l'abaissement, la sortie de la toute-puissance que revêt l'incarnation. Ce que les théologiens appelleront la kénose du Christ, mot fabriqué à partir d'un verbe grec signifiant « abaisser ». Ce que l'évangile de Jean désigne d'abord par l'expression « voici l'agneau de Dieu », c'est donc l'inattendu d'un Messie qui se révèle non dans la puissance et la force, mais dans la fragilité et la faiblesse, et dont la manifestation plénière sera son ultime abaissement lors de sa mort sur une croix, avant l'incroyable récit de son tombeau vide. Cet abaissement, l'écrivain Christian Bobin l'exprime admirablement à sa manière de poète. Je cite « Que des millions d'hommes se soient nourris de son nom, qu'ils aient peint son visage avec de l'or, fait resplendir sa parole sous des coupoles de marbre, cela ne prouve rien quant à la vérité de cet homme. On ne peut accorder crédit à sa parole en raison de la puissance historique qui en est sortie. Sa parole n'est vraie que d'être désarmée. Sa puissance à lui, c'est d'être sans puissance, nu, faible, pauvre, mis à nu par son amour, affaibli par son amour, appauvri par son amour. Telle est la figure du plus grand roi d'humanité, du seul souverain qui ait jamais appelé ses sujets un à un, à voix basse de nourrice. Le monde ne pouvait l'entendre. Le monde n'entend que là où il y a un peu de puissance et de bruit. L'amour est un roi sans puissance. Dieu est un homme qui marche bien au-delà de la tombée du jour. Mais revenons à notre première rencontre avec Jésus. Quelles seront ses premières paroles dans l'évangile de Jean? Non pas un discours, ni une lecture dans une synagogue, ni même une présentation de lui-même, non. Une question adressée aux disciples d'un autre. Une question qui rebondit jusqu'à nous. Que cherchez-vous? Incroyable, admirable première parole du Maître dans le récit de Jean, et qui viennent faire écho à l'importance de la question dans nos vies, qui structure fondamentalement l'existence humaine. Mais au-delà, j'entends dans ces premiers mots de Jésus ce qui sera explicitement affirmé à la veille de la Passion dans l'évangile de Jean, Jésus comme serviteur. En effet, Jean ne nous relate pas l'institution de la scène, mais préfère nous raconter l'épisode du lavement des pieds par Jésus à ses disciples. Jésus est là, il s'est dévêtu et a mis un torchon comme tablier. Le voilà à genoux. L'acte est colossal. En Christ, Dieu en tablier, Dieu à genoux, Dieu esclave. L'apôtre Pierre, qui est présent aussi ce soir-là, s'en offusque d'ailleurs vivement. Non, décidément, un tel libérateur d'Israël, un futur roi, ne peut poser un tel geste, celui de l'esclave ou celui de l'amant. Car seul l'esclave recevant le maître, seule l'épouse accueillant son mari accomplissait un tel geste. Il faudrait relire ici le récit de l'onction à Béthanie, qui précède d'un chapitre ce passage, pour percevoir le lien qui est fait par notre évangile entre les deux gestes, celui de la femme qui essuie de ses cheveux les pieds du Christ et celui du Christ qui essuie les pieds des disciples. Un petit verbe, essuyer, qui n'apparaît qu'à ces deux occasions dans tout l'évangile de Jean. Le même verbe. Non, Pierre ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas accepter un tel geste. Car ce geste s'en vient à jamais bouleverser notre idée même de Dieu. Le Messie attendu est bien un Messie inattendu, qui nous révèle une autre manière possible de croire en un autre Dieu. Ce geste est colossal. Il se passe de mots, il n'y a qu'à contempler. Un roi serviteur, un roi pour le service, un Dieu pour servir l'humain, scandale, folie, et pourtant. Et puis une parole, vous aussi, faites ceci. Un geste et des mots qui s'en viennent à jamais briser la loi de la violence dans nos humaines relations. Un geste qui s'en vient briser à jamais nos idées de hiérarchie et de dignité. Voilà la suprême dignité. Être suffisamment détaché du souci de soi, de son ego, pour pouvoir prendre le risque de l'agenouillement. Il ne s'agit pas ici d'humiliation ni même d'humilité, mais d'un renversement complet de nos logiques humaines et sociales. Inventant du même coup pour l'humain une nouvelle grammaire relationnelle, servir ou se servir, telle sera désormais la question. Un geste qui ouvre à une vie nouvelle, une vie de service, où il n'y a plus à prouver, à être grand, fort, puissant, sachant et pouvant, mais seulement à être prêt, non seulement à donner, mais aussi, et d'abord peut-être à recevoir. Donner et recevoir. Telle est la grammaire que Dieu veut enseigner au monde via son envoyé, à travers sa parole venue dans le monde. Mais poursuivons encore quelques instants notre parcours. Chez Jean, on discerne plusieurs expressions mises dans la bouche même de Jésus pour parler de lui-même et qui ont un point commun, l'élocution en « je suis »,« ego eimi » en grec. Elles reprennent une formulation connue de l'Ancien Testament, utilisée par Dieu pour se révéler. Son origine se situe vraisemblablement dans l'épisode du buisson ardent « Je suis celui qui est ». En reprenant à son compte cette formule de révélation divine, le Jésus johannique prétend être le visage de Dieu pour les êtres humains. Il affirme être le révélateur par excellence, écrit le professeur Zumstein. En effet, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée au IIIe siècle avant notre ère, les fameuses Septante, l'expression est effectivement exactement la même, « ego eimi ». Et parmi ces « je suis » qui rythment le récit de Jean, émergent sept paroles en « je suis », mais suivies cette fois d'un prédicat. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vigne. » D'un point de vue théologique, dit encore Zumstein, ces sept paroles formulent l'intention centrale de la révélation, en précisant ce que Jésus, figure de Dieu pour le monde, signifie pour ceux qu'il rencontre. Ici, pas de spéculation sur les natures du Christ. Les mots pain, lumière, porte, berger, chemin, vérité, vie et vigne déclinent ce que nous cherchons pour accéder à une vie en plénitude, ce dont nous avons tous besoin. Eh bien, désormais, tout cela, nous pouvons le percevoir et le recevoir dans la rencontre avec le Christ et sa parole. Et cela suffit. Et cela devrait suffire. Et cela, encore une fois, non dans la fuite de notre condition humaine, mais bien dans la restauration de cette condition humaine. Si le tragique de celle-ci est bien affirmé, et dès le prologue, les siens ne l'ont pas reçu, ce tragique n'est plus à fuir dans les petits nuages roses d'une mystique désincarnée, mais le tragique de notre humaine condition est désormais à assumer, puisque c'est très exactement là que Dieu se donne en Christ à rencontrer, afin de le transfigurer de sa parole qui est sa présence, de sa présence qui est sa parole. Nous touchons ici à la compréhension centrale que Luther donne de l'incarnation. Écoutons-le encore. Puisqu'en effet, en Adam, nous sommes montés à la ressemblance de Dieu, il est descendu à notre ressemblance pour nous ramener à la connaissance de nous-mêmes. Et cela se fait par le sacrement de l'incarnation. C'est le règne de la foi, dans lequel la croix domine, rejetant la divinité recherchée de façon perverse et faisant revenir à l'humanité perversement abandonnée. Fin de citation. Nous entendons là, d'une certaine façon, une compréhension assez différente de ce que l'on a pu comprendre de la sentence souvent reprise depuis Irénée. Vous savez, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Pour Luther, Dieu se fait homme pour que nous puissions connaître qui est Dieu et qui est l'homme, et devenir à notre tour, enfin, pleinement homme, dans le terreau de notre fragilité enfin acceptée, selon la belle formule de la pasteur Francine Carillo. Mais revenons à nos « je suis ». Les mots « porte », »,« berger », »,« chemin » et « vie » sont des mots qui induisent à une dynamique de mouvement, de rencontres, de passages incessants. Car Dieu se révèle dans le mouvement et nous ouvre à de nouveaux passages possibles. Ceux de pain, de lumière, de vérité et de vigne insistent davantage sur ce dont nous avons besoin pour vivre ces mouvements, ces passages, ces rencontres. Tout cela, Dieu les donne en Christ à l'humanité ainsi restaurée. Non pas seulement les a donnés, mais bien les donne au présent, ici et maintenant. Le prologue de Jean, avec lequel nous avons commencé cette conférence, est rédigé, il est vrai, au passé. En lui était la vie, et le Verbe s'est fait chair, et il a planté sa tente, etc. Mais pourtant, au cœur de l'hymne, par deux fois, le présent va résonner. La lumière brille dans les ténèbres, et plus loin, elle illumine. Non pas à briller, mais bien brille. Non pas à illuminer, mais bien illumine. Ici et maintenant, la lumière brille et illumine tous ceux qui écoutent et reçoivent cette parole. Lorsque nous avons rencontré le Christ pour la première fois dans l'évangile de Jean, le texte précisait « Jean, fixant son regard sur Jésus qui marchait, dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jésus marchait. Derrière ce petit verbe se cache encore quelque chose d'essentiel, me semble-t-il. Et Christian Bobin l'a bien senti, lui qui appelle Jésus « l'homme qui marche ». Dans un magnifique petit livre éponyme, je le cite. « Il marche. Sans arrêt, il marche. Il va ici, puis là. Il passe sa vie sur quelques 60 kilomètres de long, 30 de large, et il marche. Sans arrêt. » On dirait que le repos lui est interdit. Ce qu'on sait de lui, on le tient d'un livre. Avec l'oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable soulevées par ses pieds nus. Rien ne se remet de son passage, et son passage n'en finit pas. Fin de citation. Aujourd'hui, de ce livre, nous ne pouvons pas nous passer, parce que nous n'avons pas l'oreille assez fine. Alors de lui et de son statut, nous parlerons la prochaine fois.
Ainsi s'achève cette deuxième conférence du Carême protestant avec Jean-François Brenne, pasteur de l'Église protestante unie de France à l'Église luthérienne Saint-Jean à Paris. Nous le retrouverons la semaine prochaine, toujours à 16h, pour la suite de ce cycle de conférences intitulé « Coram Deo, vivre devant Dieu ». Pour plus d'informations et pour retrouver les textes, rendez-vous sur le site carême-protestant.org ou bien écrivez au Carême protestant, 27 rue de l'Annonciation, 75016 Paris. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant Carême protestant. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Bastien Varigo pour la prise de son. Une émission proposée par le Carême protestant et la Fédération protestante de France est présentée par Benjamin Bories. Restez à l'écoute pour la suite de vos programmes avec le Carême catholique. Bonne fin de journée sur France Culture.